Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous m'entendez bien, le micro marche ce matin, ça va? Je salue donc chacun, chacune qui est venu ce matin. Content de voir ou de revoir des têtes connues. Nous allons passer donc ce moment ensemble. Alors les cantiques sont marqués, les deux cantiques que nous chanterons sont marqués. Donc le premier, c'est le cantique dans les livrets bleus. Le deuxième, c'est dans les livrets marrons. Et le troisième, c'est une feuille qu'on vous a remis ou qu'on va vous remettre et qui est un cantique tiré des ailes de la foi. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc comme ça, vous avez l'ordre établi des choses de façon à ne pas se tromper. Voilà. Nous sommes donc réunis pour entendre la parole de Dieu, mais aussi la grâce de Dieu. Nous invoquons Dieu et nous lisons le psaume 102, les versets 1 à 3. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Nous louons Dieu. Nous louons Dieu en lisant le psaume 146, les versets 1 et 2. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors je vous invite à chanter maintenant le cantique 423 que vous trouvez dans les livrets bleus. Est-ce que vous entendez bien tous, ça va? C'est bon? Voilà, nos jeunes étant partis, nous continuons et nous lisons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nous lisons la volonté de Dieu dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. La prière de la repentance dans le psaume 51, les versets 1 à 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne et ne nous pardonne pas comme les hommes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis rentré dans la réserve civile de la police, j'ai eu un jour un coup de fil de la préfecture de police qui me dit, à l'époque où vous habitiez à Metz, apparemment vous auriez eu un problème avec votre propriétaire. Oui, j'en avais eu un, effectivement, puisqu'il voulait prendre ma caution. Et il avait eu la bonne idée de porter plainte contre moi pour m'accuser de toutes sortes de choses. La plainte a été classée très rapidement sans suite parce que ça n'avait aucun sens. Mais 25 ans après, c'était encore marqué. Alors heureusement, je n'avais rien à me reprocher, mais ils m'en ont quand même reparlé. Parce qu'ils m'ont dit, tu sais, dans la police, on ne prend pas n'importe qui. Je lui ai dit, non, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je lui ai dit, vous savez, sinon, même quand on rentre chez les pompiers, de toute façon, on ne prend pas n'importe qui non plus. Et ça, c'est le pardon, vous voyez, la différence entre le pardon des hommes et le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne, et les hommes nous pardonnent, mais il reste toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui est inscrit quelque part, 30 ans après, 40 ans après, on va vous dire, oui, mais vous avez été interpellé pour une infraction, Et ça reste, vous voyez, à la différence de Dieu qui, lui, oublie nos fautes, nos péchés. Vous voyez, la différence entre le pardon des hommes et le pardon de Dieu. Le pardon des hommes est imparfait. Le pardon de Dieu est parfait. Et nous lisons l'annonce du pardon dans Michée, au chapitre 7, au verset 18 et 19, et qui corrobore ce que je viens de vous dire. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Voilà le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, il est parfait. Nous lisons maintenant la confession de foi que l'on connaît, texte que l'on connaît, que j'ai déjà eu l'occasion de lire, et je pense qu'une personne ici présente connaîtra et se reconnaîtra. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et le temps et les temps. Je crois que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour tout le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà des institutions chrétiennes et des frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Avant de lire les textes que nous allons méditer ce matin, je vous invite à un court moment de prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu nous rassembles dans ton Église comme nous l'avons lu. Nous te bénissons parce que lorsque nous te prions, lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu nous écoutes, tu nous entends, tu nous délivres et tu nous donnes la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton salut gratuit, parfait en Jésus-Christ. Nous te demandons maintenant de nous conduire dans la lecture de ces textes, d'ouvrir nos yeux, mais surtout d'ouvrir nos cœurs. Amen. Alors, je vous invite donc à lire dans l'Ancien Testament, pour commencer, au chapitre 30 et au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Car ce que je te prescris aujourd'hui, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, dit-il un peu plus loin. Choisis la vie afin que tu vives. Nous lisons un deuxième texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, chapitre 14, pardon, et au verset 15. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit : Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ses choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit : Maître, et ce que tu as ordonné est fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, ou invite-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car ce que je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera le souper. Jusqu'ici. Alors, si je ne me trompe pas dans l'ordre des choses, nous chantons maintenant le cantique 252 dans les petits livrets marrons.
Thank you.
m'entendez bien là, ça va ? Bien. Un pasteur a dit un jour, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Le même pasteur, quand il était plus jeune, sidérait ses parents quand il rentrait de classe avec un bulletin de notes catastrophique. Il arrivait toujours à trouver des excuses. Ses professeurs de l'époque l'appelaient « Monsieur l'avocat » parce que là aussi, il trouvait toujours des excuses. Il ne se démontait absolument jamais. « Monsieur l'avocat ». Il m'a dit un jour « Les excuses, c'était fait pour s'en servir ». Les excuses. Pour trouver l'origine des excuses, il faut simplement aller dans le livre des origines, qui est la Genèse, et nous trouvons pour la première fois l'homme et la femme qui présentent des excuses. Comme a dit quelqu'un un jour, des excuses moisies. Après la chute, après que la transgression de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, Dieu s'est donc approché et leur a posé la question : qu'est-ce que vous avez fait ? Au lieu de reconnaître sa faute, son péché, avec selon ces textes que nous avons lus tout à l'heure, l'homme et la femme, pour la première fois, se sont divisés, se sont accusés mutuellement. Pour la première fois, ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'accordaient plus, ils ne se soutenaient plus. L'homme a répondu, cette excuse auquel il avait dû certainement réfléchir au moins 15 jours avant, « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » C'est-à-dire, sous-entendu, bien sûr, d'une manière sous-jacente, « C'est ta faute, Dieu, c'est ta faute. Tu ne m'aurais pas donné cette femme, il n'y aurait pas eu de problème. » Et la femme ne se démonte pas non plus. Elle avait dû réfléchir au moins 2 mois et répond, « Mais c'est le serpent, bien évidemment. » Mais vous y aurez tous pensé, d'ailleurs, je suis sûr. Ainsi, tout le monde avait des excuses pour tout. L'homme accuse sa femme, la femme accuse le serpent, et ils sont chassés du jardin d'Éden. Voilà l'origine des excuses. Et lorsque nous lisons dans le texte ces 3 personnes qui sont invitées au repas, au festin, par le Seigneur, l'un répond « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. » Parce que bien sûr, quand vous achetez un appartement, au moment où vous signez l'acte de vente, vous dites au notaire « Maintenant, je vais aller voir l'appartement, parce que je ne sais pas du tout comment il est finalement. » C'est très logique. Vous achetez un champ et vous n'allez pas le voir. L'autre, il achète 5 paires de bœufs. Alors ça, pour cette excuse-là, je vous assure qu'il faut avoir vécu en Alsace-Lorraine, bien connaître les paysans là-bas, pour vous dire que c'est parfaitement invraisemblable. Parce qu'aujourd'hui, même si on n'achète pas 5 paires de bœufs, on achète du matériel agricole. Et les 5 paires de bœufs à l'époque, croyez-moi, ils avaient certainement dû les essayer avant. Pour peu que ce soit des bœufs qui marchaient sur 3 pattes ou qui ne marchaient pas du tout, vous imaginez bien que vous n'allez pas acheter à l'époque 5 paires de bœufs, vu le prix que ça coûtait, sans les essayer avant. Tout comme un paysan ne va pas acheter du matériel agricole sans le regarder, sans l'essayer, sans le tester. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce sont des excuses parfaitement moisies. Voilà, ça n'a aucun sens. Et puis alors le dernier, il est mignon. Je me suis marié, donc vous savez, j'ai pas le temps, voilà. Parce que bien sûr, c'est bien connu, quand on se marie, on rentre dans un monastère pour fabriquer des camemberts et de la chartreuse. Hein, c'est-à-dire, on s'enferme et on voit plus personne, on sort plus, on fait plus rien. Ça ne tenait pas plus la route. Oui. Alors, je disais à quelqu'un cette semaine, j'ai eu l'occasion de prêcher un jour à Strasbourg, c'était l'époque de Noël. Alors Noël, dans l'Alsacien, je vous dis tout de suite, c'est très marqué, hein, ça je peux vous le dire, c'est très marqué, on aime beaucoup, il n'y a pas de problème, tout est là, tout est présent, le sapin, un grand sapin, les décorations et la crèche. Il ne faut pas oublier la crèche. Et j'ai osé dire, c'est bien, j'ai dit, il y avait le sapin qui était à côté, je dis, c'est bien, vous avez pensé à la crèche. J'ai dit, parce que vous savez la crèche, vous savez ce que c'est ? C'est le symbole du refus de Dieu du refus de l'homme de Dieu, du refus de l'humanité de Dieu et de Jésus. Parce que c'est ça, en fait, la crèche. Pourquoi il est allé naître dans une crèche, Jésus ? Parce que personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de lui. Dans les hôtelleries, il n'y avait pas de place. On leur a dit, ah non, on est désolé, il n'y a pas de place. Vous savez ? Et si Airbnb avait existé à l'époque, on aurait dit, ah ben vous savez, excusez-moi, j'ai oublié de modifier mon calendrier, il n'a vraiment pas de place. Donc il est allé dans une étable. Et dans l'étable, on peut imaginer que la personne à qui appartenait l'étable l'a accueilli, l'a accepté. Accepté donc que Marie accouche de Jésus. Mais pas chez les autres. Vous savez, pour être hôtelier, à l'époque, il fallait quand même être plus ou moins aisé, quand même. Il fallait avoir de l'argent. Vous savez. Et c'est quand même ça, en fait, les excuses. Ça vient souvent que nous avons toujours autre chose à faire, toujours, que ce que Dieu nous demande. Nous avons toujours quelque chose à faire. Et si ce n'est pas 5 paires de bœufs, ce n'est pas un champ, c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui prend la place de Dieu et qui fait que je n'ai pas de place pour Dieu, pas plus qu'il y avait de place pour Jésus dans les hôtelleries. Alors je leur ai dit, vous savez, parce qu'ils me regardaient quand même d'une drôle de manière, les Alsaciens, là, à Strasbourg. J'avais osé profaner la crèche, rendez-vous compte. Et je leur ai dit, vous savez, la crèche, vous pouvez continuer à faire, c'est gentil, c'est mignon. Mais rappelez-vous quand même le symbole que ça a. Rappelez-vous ce que ça veut dire. Il n'y avait pas de place pour Jésus chez eux. Alors, avec une crèche, d'accord, mais est-ce qu'on a de la place pour Dieu dans notre vie, dans notre cœur ce matin ? Est-ce qu'on a de la place ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire qui fait qu'on remettra plus tard l'appel de Dieu ? On remettra plus tard, je dirais, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que Dieu veut nous dire. On est des fois très fiers, vous savez, de notre lignée. Moi, je suis une famille protestante. Et bien sûr, j'en suis content, j'en suis fier. Mais vous savez, si je suis blond aux yeux bleus, c'est parce que dans ma famille, on était blond aux yeux bleus. Ça c'est un héritage, ça se transmet. Mais la foi, par contre, elle ne se transmet pas, vous savez. On ne reçoit pas la foi en passant chez le notaire. Quand on reçoit l'héritage de ses parents ou de ses grands-parents. La foi, elle est personnelle. Dieu nous dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis, c'est un choix personnel. Dieu ne nous contraint pas, ne nous pousse pas. Vous êtes rentrés libres ici, n'est-ce pas ? Bon, les portes, elles sont fermées, mais rassurez-vous, elles vont se rouvrir tout à l'heure. On va vous laisser sortir. Vous n'êtes pas rentrés, je dirais, avec une mitraillette dans le dos. Vous êtes rentrés libres. Parce que Dieu nous laisse libres. Parce que l'essence de Dieu, c'est de laisser l'homme libre de son choix et de ses actes. Mais Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Alors je disais, on est des fois fiers d'avoir une lignée et on tombe comme ça des fois, parfois, dans une suffisance. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans le sud de la France, dans les Cévennes, mais que j'ai remarqué aussi, bien sûr, en Alsace-Lorraine. Et un jour, un pasteur qui parlait avec une dame qui expliquait qu'elle avait des générations de protestants dans la famille, dont le nom certainement inscrit au musée du désert. Il lui a dit, mais vous savez, ma chère madame, c'est très bien tout ce que vous me dites. Mais le fait d'être né dans un garage ne fera jamais de vous une voiture. Et je me souviens, quand on partageait un petit peu comme ça, entre église, mission, avoir été en Suisse allemande. Ah, ça rigole pas là-bas. Suisse allemande, donc, ils sont très gentils, très accueillants. Et un jour, on visitait un temple magnifique. Et on regardait sur les bancs, c'était des vieux bancs en bois, on regardait sur les bancs, écrits en gothique, des petites plaques d'émail avec le nom des gens. Donc j'essayais de le lire parce que le gothique c'est pas évident. Et voilà qu'un monsieur, très majordome anglais, nous regarde et nous dit en allemand, ce sont les noms de mes ancêtres. Et je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai répondu en allemand. Moi, je préfère avoir mon nom inscrit dans le livre de vie que sur un banc d'église. Après, bizarrement, on n'avait plus grand-chose à dire. Je ne cache pas que je crois que j'avais vraiment dit ce qu'il ne fallait pas. Mais vous savez, personnellement, il ne faut pas s'attacher à ce genre de choses. Posons-nous la question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Peut-être sur un banc d'église, peut-être, d'accord? Peut-être que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes oncles, tantes, tout ça, quelque part dans les Cévennes ou je ne sais pas où, ou dans un temple, on écrivait, vous savez, le nom des personnes, et ces personnes venaient s'installer à leur place. Il n'était pas question qu'on s'installe à la place. Alors, je peux vous dire une chose. Aller dans un temple en Suisse, en Allemagne, où vous avez le nom de la personne inscrite sur le banc, on vous demandera gentiment, mais fermement, d'aller voir ailleurs, d'aller vous installer ailleurs. Là, c'est ma place. C'est comme ça. Et nous voyons donc que nous sommes attachés à des choses futiles. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle et il veut que nous parvenions à la connaissance du salut. Nous avons lu ce texte dans Michée, que j'aime beaucoup, où Dieu nous dit « Quel Dieu est semblable à toi ?» Nous l'avons lu tout à l'heure, mais je le relis parce que c'est un texte important. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore pour nous, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le pardon de Dieu, le véritable pardon de Dieu. Voyez. Alors dans cette hôtellerie où il n'y avait pas de place pour Jésus, ces gens qui devaient faire plein de choses matérielles, beaucoup plus importantes, que de répondre à l'appel du Seigneur et de venir à leur repas. Vous savez, le repas dans la Bible, c'est un signe de communion. C'est un signe de communion. Ces gens qui n'avaient pas le temps, qui avaient autre chose à faire et qui se sont poliment mais fermement excusés, au point d'irriter le maître et que le maître a dit quoi ? Allez le long des haies, cherchez les boiteux, les aveugles, ceux qui sont malades. Alors, il ne faut pas voir toujours les boiteux au sens physique du terme. Vous savez, quand la Bible parle, elle parle aussi par parabole. Vous savez, les boiteux dans la vie, ceux qui n'ont pas forcément réussi. Les aveugles, ceux qui ne voyaient rien du tout, qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Vous savez, tous ces gens, je dirais, qui sont fatigués, usés, malades, voyez, déçus de la vie, qui n'ont plus rien. Et Jésus disait, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de moi. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de Dieu. Ce sont les malades. Et ce sont ces gens-là, justement, que le serviteur va chercher le long des haies partout. Vous savez, c'est ce qu'on appelle communément l'évangélisation. C'est l'évangélisation telle qu'on la lit dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples ? Eh bien, ils ont annoncé la parole de Dieu. Annoncé la parole de Dieu pour que des gens entendent le message de Dieu, entendent la parole de Dieu, se convertissent à leur tour et qu'à leur tour, ils soient des témoins. Ça, c'est de l'évangélisation. Et j'ai participé très souvent à des missions d'évangélisation qui sont un petit peu comme nos cultes conférences, vous savez, avec des thèmes chaque jour, un thème particulier. Et comme ça, vous invitez des gens à venir écouter la parole de Dieu sur un thème particulier. Mais il faut avoir le temps. Et des fois, les gens, je les voyais, ils me disaient « Oh, je viendrai un soir ». Et des fois, je les revoyais et ils me disaient « Alors, c'est quand ?» Je dis « Mais non, c'est terminé maintenant ». Maintenant, vous pouvez venir le dimanche, hein, si vous voulez, bien sûr. Ne laissons pas passer l'appel de Dieu, ne laissons pas passer, je dirais, le message de Dieu, le message de l'Évangile. Prenons le temps pour Dieu. Laissons de côté nos petites affaires, laissons de côté ce qui peut-être nous encombre l'esprit, hein, ce qui nous empêche, je dirais, de nous poser, d'entendre, d'écouter et surtout de recevoir. Oui, Dieu nous appelle, il met devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie ce matin pour que nous vivions. Dieu nous appelle et il dit dans l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte. » C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs par un de ces versets que j'ai été touché un jour par la parole de Dieu. Il y a quand même quelques années, vous voyez. Et j'étais venu vraiment comme ça, vous savez,
On m'avait invité. Je dis, vous savez, je suis protestant, hein, je connais. Ça, c'est toujours la réponse aussi. Oui, mais je connais, vous savez. Je connais ça depuis ma plus tendre enfance, vous savez, mais je connais tout. Vous savez, la Bible, je la connais. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, oh, vous savez, la Bible, je la connais. Je lui ai dit, ah bon, vous connaissez 31 773 versets de la Bible. Mais je lui ai dit, vous avez de la chance, alors. Vous savez, cette suffisance comme ça. Oh, je connais, tout ça, vous savez, j'entends ça depuis ma plus tendre enfance. J'entends peut-être, mais est-ce que j'ai écouté ce que Dieu veut me dire, maintenant, à moi, personnellement, là, maintenant? Parce qu'il y a une différence entre, vous savez, entendre du bruit et écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un, ça veut dire que je fais silence, je ne suis pas perturbé par la radio, la télévision qui marche, je ne suis pas en train de regarder mon téléphone et regarder mes messages ou d'en passer. Hein, parce que quand vous parlez avec quelqu'un comme ça, vous avez envie de vous arrêter. Hein. Franchement, je vous assure que c'est particulièrement désagréable quand vous parlez à quelqu'un et qu'il est en train de jouer avec son téléphone. Oui, d'accord, bien sûr, oui. T'as compris ce que je t'ai dit? Ah non, pas du tout. Non. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Oui, d'accord. Vous voyez, c'est comme ça avec Dieu. On entend, mais on n'écoute pas. Et on passe à côté du salut. Et je vous disais, donc, moi, la première fois que j'ai entendu le message de l'Évangile, bien que l'ayant entendu, mais Dieu m'a parlé personnellement. Et j'étais convaincu qu'il fallait que je lui donne ma vie, maintenant. Vous savez, la verrière du temple ne s'est pas ouverte avec l'Alléluia de Handel, avec les anges et tout, ils sont descendus. Non, vous savez, personne n'a rien entendu. Moi, par contre, j'ai entendu. Oui. Et j'ai en mémoire une personne qui est pasteur, lui toujours la même d'ailleurs, celui qui était avocat là, quand il était jeune. Et il me dit, mon beau-père, un jour, était quelqu'un de un syndicaliste qui appartenait à un parti politique très, très dur, je ne nommerai pas, et qui était quelqu'un de très violent, très méchant, très dur, et qui terrorisait les gens à son boulot et dans sa famille aussi, qui était capable de piquer des colères monstrueuses, et tout le monde le craignait. À son boulot, c'était quelque chose de terrible. Tout le monde le craignait, tout le monde filait droit. Il se mettait des fois à crier, à hurler, on racontait, parce que moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Et puis, il parlait, sa femme et ses enfants donc, allaient au culte, hein, comme nous sommes réunis ici ce matin. Et puis, quand ils sont rentrés, donc à midi, lui était assis dans un fauteuil, tout calme. Ça changeait, apparemment. Parce que sa femme me disait, ça avait changé. Et puis, il lui dit, ça va? Oui, ça va. Il lui dit, j'ai fait le ménage. Donc, sa femme regarde et dit, t'as fait le ménage, ah bon, oui. Il dit, oui, j'ai fait le ménage, là, dans mon cœur. En fait, il s'était levé, il est allé dans la cuisine, il s'était fait un café, et il était tombé sur le calendrier, vous savez, connaissez tous ces calendriers, avec le verset de la Bible et l'explication derrière. Je pense que certains connaissent. Et il avait lu le verset du calendrier du jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui, il sera en communion avec moi. Il a été touché par ce texte. Et je lui dis, quand je l'avais vu après, je lui dis, tu vois, c'est un des textes, moi, qui m'a touché lorsque je l'ai entendu. Et en fait, tout seul, il a fait la paix avec Dieu, il a donné son cœur à Dieu, et c'est un homme qui, dans sa famille, dans son travail, a fondamentalement, radicalement changé, complètement changé. Parce que Dieu nous dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il fait de moi un homme nouveau, il fait de moi une femme nouvelle. C'est-à-dire que ce que j'étais, Dieu me transforme, Dieu oublie mes péchés, Dieu me pardonne, il jette mes péchés au fond de la mer. Alors, ce matin, après tous les textes que nous avons lus, il faut se dire une chose, Dieu nous appelle tous particulièrement, individuellement, personnellement. Et ce matin, répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu, ouvrons notre cœur et ne disons pas « je verrai demain, je verrai la semaine prochaine ». Non, Dieu nous parle peut-être à nous personnellement ce matin. Eh bien, répondons à son appel. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce encore aujourd'hui, encore ce matin. Il l'accorde pour tout le monde. Et cette grâce, elle est pour tous, elle est pour toutes. Eh bien, acceptons ce matin la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Acceptons cette grâce dans notre cœur. Acceptons Jésus-Christ comme notre salut. Amen. Voilà, c'est le temps des annonces. Alors, il y a quelques-unes. Hein. Alors, donc, Catherine m'a donné une liste d'annonces à vous faire parvenir, donc à vous transmettre lundi 8, donc demain, de 11h30 à 13h30, non, pardon, lundi 8, ouverture du temple, je saute une ligne, ouverture du temple de 12h30 à 14h avec orgue. Donc lundi 8, ouverture du temple, je répète, de 12h30 à 14h avec orgue, et ça sera Frédéric qui sera aux manettes. Mardi 9, 11h30 à 13h30, pause déjeuner biblique avec Patrice Rollin et moi. Donc moi c'est Catherine, hein, c'est pas moi. Je lis ce qu'elle me met. Un grand merci à Nicole qui se charge de l'organisation du déjeuner et qui souhaite donc avoir une idée du nombre de participants, la prévenir. Voilà, je vous transmets. Vendredi 12, de 19h30 à 21h30, Théo Psycho continue autour d'une table garnie, mange toujours. Hein. Là par contre, on ne trouve pas d'excuses. Hein. Une table garnie avec la lecture en parallèle de Marc 5 et du récit de Marie Cardinal, les mots pour le dire. Samedi 13, ça c'est pour moi, sa formation au secourisme pour la journée, donc ben ça c'est plus d'actualité parce que c'est plein, voilà. Donc on a nos 10 personnes à former donc samedi, donc on va en refaire d'autres, hein, parce que certains m'ont posé la question, donc on va en refaire d'autres, rassurez-vous. Où vous pouvez vous inscrire, être convié et apprendre les gestes de secours, ce qui peut toujours servir, par les temps qui courent surtout. Dimanche 14, donc dans une semaine, outre le culte du matin, à 16h, rencontre interreligieuse à l'église Saint-Éloi, à laquelle je participerai, donc Catherine toujours, pas moi, mais je serai heureuse de vous retrouver, de retrouver des visages connus. Donc Catherine participera à l'église Saint-Éloi, à cette rencontre interreligieuse. Alors, la semaine suivante, elle me dit si tu veux en parler. Alors, je veux bien en parler, oui. Lundi 15, ouverture du temple, toujours, comme le lundi 8. Le 16, le groupe œcuménique à 18h30. Le mercredi 17, étude biblique sur Esther à 19h30. Vendredi 19, les JMJ avec un dîner. On mange toujours, hein, voyez. Et le samedi 20, de 10h30 à 12h30, évangile et liberté. Voilà, et je crois qu'il y a une cantate hein, aujourd'hui qui est à 17h. Voilà, donc cantate cet après-midi à 17h. Voilà, donc pour les annonces, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Didier ? C'est 17h30 la cantate ? 17h30 la cantate, voilà. Bon, si vous y êtes à 17h, au moins vous aurez de la place. Hein. Oui ? 17h30, d'accord. Voilà, voilà. Alors, après, oui, quoi, quoi ? Ah oui, tu fais bien Didier, oui.
Parce que là aussi, on mange un petit peu, on boit un petit peu. Et il y a donc, comme nous sommes le premier dimanche du mois, oui, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, oui, premier dimanche du mois, oui, ça va, je remets les choses dans l'ordre. Donc, nous avons un petit apéro convivial, hein, avec alcool et sans alcool, hein, pour ceux qui le désirent. Donc, à la fin du culte est organisé donc, par Didier, comme toujours, voilà, qui pense toujours à tout. Alors, le conseil presbytéral sera et décalé d'une journée pour des raisons pratiques. Le conseil presbytéral aura lieu donc le mardi 9 de mémoire, oui, mardi 9 et non pas le mercredi 10. Conseil presbytéral le mardi 9 à 19h. Voilà, voilà, j'oublie rien. Alors après les annonces, après l'annonce des repas divers et variés, du pot, et etc., c'est le moment de l'offrande. Voilà. Et là aussi, pas d'excuses. Et nous chanterons le cantique dont vous avez les feuilles qui vous ont été données. Et je vais peut-être demander à Elisabeth de jouer, pour que vous ayez la musique en tête, la première strophe. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, comme nous l'avons entendu, nous te bénissons pour ta parole, nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, ce matin, qu'aucun ne se prive de ton salut, de ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous guide, elle nous console, elle nous éclaire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons penser à tous ceux qui sont dans la souffrance, peut-être dans la maladie aussi, dans la difficulté. Nous pensons à eux. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder vraiment ce pardon, cette lumière dans notre cœur, dans notre vie dont nous avons besoin. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour le miracle que tu opères dans notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'effectivement, nous pouvons dire, voici, je fais toutes choses nouvelles, et tu fais ces choses nouvelles en nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole entendue ce matin. Amen. Alors, donc, avant de nous quitter, je vous propose donc de lire Notre Père. Notre Père que j'ai récupéré à Châtenay-Malabry d'ailleurs. Et comme quoi ça circule. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors que Dieu nous accorde la vie ce matin, qu'il nous accorde son pardon, qu'il nous accorde la grâce comme nous l'avons lu. Le pardon de Dieu est gratuit. La vie que Dieu nous donne est gratuite, nous ne nous en privons pas. Allons en paix, retournons chez nous et surtout pensons à témoigner autour de nous, à ceux qui sont dans la souffrance, à l'image de ceux qui sont le long des haies, le long des talus, le long des chemins, qui sont dans la souffrance, boiteux, aveugles, meurtris, meurtris par la vie. Pensons à eux et surtout annonçons-leur cette parole d'évangile, cette parole de vie. Amen.